Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Un nouveau journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une, le sud face aux incendies.
Et le plus important dans les Pyrénées-Orientales, 4500 hectares parcourus par le feu, 10 000 habitants évacués. Nous sommes sur place en direct sur RMC. Conséquence de ces incendies, la fin de la troisième étape du Tour de France sans public. Aujourd'hui, la faute à ce feu. Et puis la Coupe du Monde de foot. La nuit très agitée, le Brésil à la trappe et l'Angleterre qualifiée.
Et le feu est donc toujours en cours ce matin dans les Pyrénées-Orientales.
4500 hectares déjà parcourus par les flammes dans le secteur de Trévillac et d'Y-sur-Tête, c'est à l'ouest de Perpignan. C'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès. Premier gros feu de l'été, est-il toujours hors de contrôle ce matin ?
Bonjour Quentin, c'est une lutte acharnée sur le terrain, mais le feu n'est toujours pas maîtrisé à l'heure qu'il est. Toute la nuit, le combat s'est déroulé au sol pour les pompiers. Difficile combat d'ailleurs dans des zones souvent escarpées, souvent difficiles d'accès. Il y a un quart d'heure, j'ai vu des premiers survols en avion avec des canadairs mobilisés et des dash également. C'est le cas depuis hier après-midi. Vous entendez certainement les sirènes des camions des pompiers. 200 véhicules mobilisés dans le secteur. 26 communes ont été évacuées pour protéger les populations. Évacuation bien sûr préventive. 700 pompiers se relaient depuis plusieurs heures maintenant ici sur le terrain. Le vent commence à se souffler très très fort ici. C'est une contrainte évidemment supplémentaire pour les soldats du feu qui s'attendent à une nouvelle journée très difficile au contact de ce feu gigantesque, selon le préfet des Pyrénées-Orientales.
Jean-Louis Forquès, donc en direct des Pyrénées-Orientales ce matin pour RMC. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parlait dans la soirée de 6 feux critiques avant que de nouveau se déclenchent dans l'Aude et l'Hérault notamment. Celui du Gard, qui a parcouru 540 hectares de végétation dans le secteur de l'Aidenon, est fixé. Mais il y a toujours 7 départements du sud-est au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie, attisés par le vent, on vient d'en parler, attisés par la chaleur et le troisième épisode de canicule, là ça y est, qui s'installe sur le pays avec les 42 degrés déjà atteints durant le week-end.
Et des conséquences économiques pour ceux qui perdent de tout.
Oui, en fin de semaine dernière, vous vous souvenez de Canet en Roussillon qui était touché par un violent incendie ravageant des campings et aussi une entreprise de catamaran. 350 salariés de cette entreprise qui ce matin sont au chômage technique, Alexandre Thibault.
Oui, autant de salariés qui ne reprendront pas le travail ce matin. Dans l'entreprise depuis 26 ans, Samy Ducolombier est le représentant du personnel. Il a reçu plus d'une quarantaine d'appels de collègues.
Ils se mettent à pleurer au téléphone, ils se mettent à pleurer en voyant ce désastre. Ils sont effondrés. C'est quelque chose qui est très dur à encaisser, quoi. C'est une entreprise qui fait partie de notre famille. Celle qui nous fait vivre depuis toutes ces années.
Si le hangar qui abrite les moules, qui servent à la fabrication des catamarans, le plus important, a été préservé, ça n'est pas le cas des deux autres qui ont été totalement détruits. David Etienne, le directeur général délégué du groupe, n'a pas eu d'autre choix que de mettre les salariés au chômage technique.
Le chômage technique, ce n'est pas la panacée en termes de rémunération. Et on ne peut pas gommer le traumatisme de voir un outil de travail partir en fumée. Par contre, on peut rassurer les gens sur le fait qu'ils n'ont pas perdu leur boulot et que ce n'est pas la fin de l'entreprise. On a des banques, on a nos propres ressources financières.
Et les volontaires pourraient être reclassés temporairement sur d'autres sites du groupe.
Ce coup de théâtre ce matin dans l'affaire Jubilar. Cédric Jubilar qui reconnaît sa culpabilité dans la disparition de sa femme en 2020 dans le Tarn. Le journal La Dépêche écrit ce matin qu'il a remis une lettre manuscrite ces dernières semaines à un de ses avocats à 2 mois du procès en appel dans cette affaire et alors qu'il niait catégoriquement les faits jusque-là. Ce cambriolage aussi ce matin dans l'actualité. Alors pas au musée du Louvre celui-ci, mais au musée Lalique en Alsace où une vingtaine de bijoux de grande valeur ont été dérobés. C'était par des malfrats durant le week-end. Le montant du préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. Cambriolage qui met en colère Christian Dorechner, le maire de Vingant-sur-Moder, où se situe le musée.
La femme du ménage a découvert que le musée était cambriolé, sauf que l'alarme s'était mise en place. Les caméras sont mises aussi en fonction, puis il a quand même été cambriolé. Pour moi, c'est une équipe qui était très bien organisée. Pour ne pas s'en cacher, c'est un musée de France où il y a des pièces uniques de Marc Lalique et de René. Il y a des bijoux, il y a des flacons de parfum, il y a des bouchons de radiateur, il y a des graphiques de Lalique, il y a du verre encore, il y a des arts de la table. C'est le plus gros moteur du tourisme de la région.
Et puis on a vécu un match complètement fou cette nuit à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec, à la fin, la qualification de l'Angleterre. 3-2 contre le Mexique, avec des rebondissements dans tous les sens dans ce match, comme le doublé en 2 minutes du milieu de terrain anglais, Jude Bellingham. Quelques heures avant, c'est le Brésil qui se faisait sortir 2-1 par la Norvège, avec un doublé d'Erling Haaland. Le pénalty de Neymar n'a rien changé pour les Brésiliens.
Et on est déjà à 3 jours du quart de finale de la France contre le Maroc.
Oui, les Bleus qui sont de retour à leur entraînement au camp de base de Boston, Florent Germain.
Oui, la préparation du choc face au Maroc commence véritablement aujourd'hui. Depuis samedi soir, le sélectionneur Didier Deschamps a voulu laisser une période de décompression à ses joueurs. Il a fallu oublier et digérer les coups, les insultes et les provocations des Paraguayens, se vider la tête avec un peu de temps libre et quelques soins pour les titulaires, un entraînement léger pour les remplaçants. Les Bleus ont même pu tranquillement regarder l'élimination du Brésil à la télévision dans leur hôtel de Boston. La France a ce petit avantage de jouer son quart de finale de Coupe du Monde jeudi dans la ville de son camp de base, où les températures sont d'ailleurs bien plus clémentes désormais. Deschamps et ses adjoints ont prévu une montée en puissance et veulent que les Bleus gardent un état de forme optimal. Le staff soigne aussi la douleur à l'adducteur du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, qui demeure incertain pour affronter les Marocains.
Les prochains matchs au Mondial, l'Espagne contre le Portugal ce soir à 21h, on vivra ça évidemment sur RMC.
Et avant cela, on va vivre sur RMC toujours la 3e étape du Tour de France.
Le Tour qui revient en France après le grand départ à Barcelone, où le Mexicain Isaac Del Toro a remporté la 2e étape hier, offerte sur un plateau, vraiment c'était impressionnant, par son coéquipier, le Slovène Tadej Pogacar, hein, Kevin Morin.
Oui, c'est une passe décisive comme on en voit peu en cyclisme. Au sommet de Montjuïc, Isaac Del Toro remercie son leader Tadej Pogacar. Le Slovène, tellement puissant, se permet d'offrir la victoire à son jeune coéquipier mexicain qui découvre le Tour de France.
Je suis très privilégié. Je n'en reviens pas. Être coéquipier de Tadej, c'est tellement d'émotions. Vous ne pouvez pas savoir ce que représente ce succès pour moi et mon pays.
Isaac Del Toro a gagné hier devant des supporters mexicains en nombre à Barcelone, comme Orlando et Odette.
C'était la victoire qu'on espérait. Même si on la doit un peu à Pogacar, c'est très beau.
C'est beaucoup d'émotions. Comme mexicaine, c'est magnifique. On sait qu'Isaac est capable de faire de très grandes choses.
Un autre jeune talent, Paul Sexas, a lui connu des déconvenues avec une crevaison. Le Lyonnais est aussi passé proche de se faire renverser par une voiture de l'organisation.
Ouais, ça a été compliqué après ma crevaison. J'ai changé 2 fois de vélo, j'ai mis beaucoup de cartouches là. Il a fallu que je rentre dans la bosse après. Il y a des journées comme ça où ça arrive.
Le Français est désormais 6e au classement général, à 42 secondes du maillot jaune Jonas Vingegaard.
Et la 3e étape, 196 km aujourd'hui entre Granollers en Espagne et Les Angles côté français. Toute la partie française qui sera sans public pour ce tracé de la 3e étape en raison des incendies.
Mais justement, alors sans public, mais alors du coup, vous êtes sur RMC plus que jamais. Hein. Vous vous branchez sur RMC, bien sûr, vous ne manquerez rien de l'étape du Tour et puis après des matchs de la Coupe du Monde qui arrivent avec ce Espagne-Portugal ce soir. Bref, vous restez avec nous toute la journée. Aucune excuse.
Et vous ne manquerez rien aussi du Quintet qui est dans une ville que Quentin adore, les Sables d'Olonne.
C'est en Vendée, ça.
Les oui, c'est en Vendée, absolument.
Quentin. C'est vrai que t'es Vendéen.
Ah non, alors
il est Charente-Maritime, ouais, on va jouer loin, avec des...
Bonjour à tous les Vendéens, hein, et surtout Charente-Maritime. 18h30 ce quintet, le 2, le 9, les pronostics de la Dream Team. Le 2 en favori, Jim Dalouette, et le 9 en outsider, Global Duty.
Merci beaucoup Quentin Vinet. Rochelet, rendons à César ce qui est à César et à Quentin ce qui est à Quentin. Voilà, merci beaucoup Quentin Vinet.